Le gouvernement provincial du Katanga a décidé de réduire de 40% le montant de la rétrocession allouée aux entités territoriales décentralisées de cette province. Cela dit-il suite aux nombreux abus constatés dans l'utilisation de cet argent au niveau des chefferies et secteurs. Selon le ministre provincial des Finances, cet argent n'a pas servi aux travaux d'investissement. Quelle lecture faire de cette décision et quel bilan dresser à ce jour du processus de décentralisation en RDC? Pour en parler, je reçois professeur Félicien Kabamba, chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Professeur Stéphane Dinzita, recteur de l'Université chrétienne internationale. Il est aussi président du Centre africain pour un leadership transformationnel. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Maître Soudi Alimasi Kimputu, expert en décentralisation. Bonsoir, maître.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les entités territoriales décentralisées du Katanga ne recevront plus les 3 milliards de francs comme d'habitude. Cette somme est réduite de 40% à cause de certains abus constatés dans l'utilisation de ces fonds. Berry Franklin Luchaka.
C'est au cours d'une mission d'audit dans les entités territoriales décentralisées et les chefferies conduites par le ministre provincial des Finances que ce constat a été fait. Il s'est dégagé de ce constat que, pour l'exercice 2012-2013 par exemple, les chefferies avaient perçu dans l'ensemble plus de 3 milliards de francs congolais. Cette somme était destinée non seulement au fonctionnement de ces entités, mais aussi à financer quelques travaux de réhabilitation de certaines infrastructures de base et aussi d'investissement, explique le ministre provincial des Finances. Malheureusement, le ministre des Finances constate que seulement 600 millions de francs congolais ont servi à quelques travaux d'investissement. De quoi n'est pas enchanté le gouvernement provincial, comme l'explique ici Christian Mwandoun-Simba.
Après une mission d'audit que nous avons diligentée au mois d'avril dernier, nous avons constaté que plus de 90% des chefferies et secteurs consacrent la totalité des frais qui leur sont rétrocédés uniquement au paiement des primes et des salaires. De sorte que, bien que nous ayons augmenté le niveau de la rétrocession, il n'y a aucun impact sur 90% des chefferies et secteurs, aucun impact sur les terres. D'où, après que nous ayons fait rapport au Conseil des ministres, le Conseil des ministres a décidé qu'on donne d'abord directement les 40% et qu'une commission soit mise en place entre les infrastructures, les finances et le ministère de l'Intérieur pour déterminer avec les responsables des ZTD les projets qui seront financés par le solde qui est gardé au niveau du gouvernement provincial.
Signalons tout de même que chaque mois, les entités territoriales décentralisées recevaient plus de 2 500 000 francs congolais et au vu de ces abus, elles perçoivent désormais, et ce, avec effet immédiat, environ 1 million de francs congolais. Une situation qui, telle qu'on peut s'y attendre, ne devrait pas réjouir les entités territoriales décentralisées.
Merci Berry Franklin Luchaka, maître Soudi Alimasi Kimputu, vous êtes expert en décentralisation. Maître, quelle lecture faites-vous de cette décision du gouvernement provincial du Katanga?
Merci beaucoup. Je crois que il faudra regarder tout bord autour de cette question. Personnellement, je crois que faire des missions d'audit est une très très bonne chose. Mais avant de faire des missions d'audit et de donner de l'argent, je crois qu'il y a ce que l'on appelle dans la décentralisation la planification locale. Cette planification locale prévoit, entre autres, la mise en œuvre d'un certain nombre de projets au niveau de chaque entité territoriale décentralisée. Et lorsque les moyens est donné, il y a quand même un tableau de bord qui a trait à cette planification locale de cette entité-là territoriale qu'on va auditer. Et lorsqu'on va l'auditer, c'est par rapport à cette planification qui a été validée par le gouvernement provincial et qui fait partie de la planification provinciale. Il y a aussi une nuance à faire lorsqu'on donne ces rétrocessions-là. Le gouvernement provincial devra être rassuré de la hauteur de dépenses de fonctionnement de chaque entité territoriale décentralisée. Ce qui est déplorable, c'est que la plupart de nos provinces, peut-être que la province de Katanga pourra nous dire le contraire, mais après vérification, on donne seulement de l'argent et on demande à l'entité territoriale décentralisée de mettre en œuvre différents projets en utilisant cet argent-là qu'on vient de leur donner. Alors lorsqu'on va les inspecter, on trouve cela, mais je pense que la décision, lorsqu'elle est prise de cette manière-là, je ne la trouve pas rejoindre le principe de décentralisation. Les organes de contrôle devront le faire, mais s'il y a par exemple mauvaise gestion, s'il y a par exemple dilapidation de fonds en marge de ce qui a été prévu comme projet d'investissement au niveau de cette entité territoriale décentralisée, mais nous sommes quel pays? Il faut sanctionner les coupables, par exemple. Vous ne pouvez pas préjudicier toute une entité parce que le développement, c'est à la base. C'est pas la province qui va quitter là-bas pour aller se substituer et commencer à faire le projet de développement local dans les secteurs et les chiffres. Non. Il faut les... Nous avons voulu cette décentralisation pour rapprocher les gouvernants des gouvernés. Il faut pousser la population elle-même. Il faut qu'il y ait un contrôle citoyen. La population devra savoir. Nous avons à l'époque initié les systèmes d'affichage même des projets d'investissement et de développement au niveau de chaque entité territoriale décentralisée. Là où il y a transparence, la population devait elle-même savoir que notre entité a eu autant et voici les projets que nous avons et ces projets coûtent autant. C'est bien d'aller les inspecter, on fait le constat généralement, et on s'est dit bon, rien n'a été fait ou ça a été fait en temps de pourcentage, mais il y a, quand vous lisez très bien cette action-là, vous risquez de vous rendre compte qu'il y a absence d'une bonne planification et les moyens sont alors dilapidés dans les besoins, non seulement de fonctionnement, mais ces différents responsables essayent d'utiliser cet argent-là à leur guise.
Alors, maître, si on devait s'en tenir sur le plan légal, est-ce que cette action, pour me répéter, est légale?
Non, on ne peut pas dormir et se réveiller, commencer à violer la Constitution ou les lois de mise en œuvre. J'aimerais que nous puissions vraiment être un pays qui est dans le rang des pays qui vont vers le développement et la bonne démocratie. Quand on dit, est-ce que le pouvoir central peut se réveiller aussi un jour, il dit, voilà, et comme par exemple la province de Katanga n'a pas appliqué tel ou tel autre projet, je bloque la rétrocession ici à Kinshasa. Comment nous pouvons aller de violation en violation? Si ces entités n'ont pas bien fait leur travail, il faut sanctionner les coupables. C'est pour ça que nous devons d'ailleurs aller vite aux élections locales. Parce que je me demande si aujourd'hui il y avait des élus locaux. Ça serait une guerre entre ces entités-là, donc ces élus-là et ces petits échevinats qui sont les gouvernements locaux, vis-à-vis du pouvoir provincial. Ils peuvent même aller en justice parce que chacun a une personnalité juridique. Malheureusement, maintenant, ça ne peut pas se faire parce que tous ceux qui sont là-bas, pour la plupart, dans les secteurs, c'est des personnes nommées, et ainsi de suite. Vous voyez, ça, c'est de l'arbitraire. On a remarqué qu'il y a une erreur au niveau du fonctionnement des entités de base, on sanctionne les coupables et on demande à l'entité de corriger, parce que diminuer l'argent, et depuis c'est quel argent par rapport au développement que nous recherchons?
Maître,
j'ai entendu 2 millions. 2 millions, vous connaissez le nombre de populations et les besoins qu'il y a dans nos entités locales?
Maître,
c'est ça notre point de vue.
Maître Soudi, très brièvement, avant que je ne donne la parole au professeur Félicien Kabamba, vous parlez de l'importance de l'affichage des projets de développement dans les entités territoriales décentralisées. Est-ce que vous connaissez certaines provinces qui le font ici en RDC?
Je sais qu'au Nord Kivu, on a essayé de le faire dans certaines entités où il n'y avait pas de conflits armés, mais les autres provinces, malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce qu'on doit savoir au niveau de chaque entité de base, chaque secteur, chaque chefferie, chaque commune, quels sont les projets de développement que nous avons.
Merci.
Quels sont les projets qui doivent être mis en œuvre par l'autorité locale. Et au niveau de la commune, on peut afficher ça.
Merci,
la
maître.
Population peut passer et voir parmi les priorités de la commune, les priorités du secteur, les priorités de la chefferie. Et ça coûte combien? Et le financement qui est donné, par exemple, en termes de rétrocession, parce que ces entités ont aussi des recettes locales. Mais si ces projets d'investissement-là attendent la rétrocession,
La population doit savoir. Ce n'est pas un secret.
Merci, maître. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Vous venez de suivre maître Soudi Alimasi Kimputu qui pense pour lui que c'est simplement de l'arbitraire. Comment vous analysez cette décision du gouvernement provincial du Katanga?
J'estime que le constat qui a été fait par le gouvernement du Katanga est un constat très pertinent qui porte sur l'utilisation de fonds de rétrocession. Et j'espère que le gouvernement du Katanga va continuer à assurer le suivi de l'exécution de tous les projets et de tous les fonds qui sont transférés aux ETD. Cependant, la décision qui a été prise me semble un tout petit peu exagérée. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si on diligente un audit sur tous les fonds que Kinshasa rétrocède aux provinces, j'espère, je suis très certain, que le constat va être le même.
Ça, que là. Kinshasa serait obligé à son tour de réduire s'il fallait arriver jusque-là.
Bien sûr. Mais je crois que là, si le constat est pertinent, la mesure prise me semble très forte et disproportionnée. Ce qu'il a fallu faire, c'est, à mon avis, essayer d'interpeller les coupables et de prendre des mesures, des sanctions qui s'imposaient. Parce qu'en fait, on ne peut pas empêcher à une entité administrative de bénéficier de ce à quoi elle a droit. L'article 220 de la Constitution, qui, à mon avis, est généralement cité quand on parle de mandat du chef de l'État, les gens ne voient que le mandat du chef de l'État, mais il y a aussi une disposition sur les prérogatives qui sont dévolues aux ETD et aux provinces qui ne peuvent pas être visées. Cela veut dire quoi? Que le constituant a voulu rendre irréversible la notion de la décentralisation. Et ça, c'est, à mon avis, un repère extrêmement important. Il ne me semble pas être indiqué pour la province du Katanga de prendre une décision qui consiste à bloquer le fonds, mais il est plutôt question d'envisager des mesures correctives et des sanctions appropriées.
Et donc, si je vous comprends, professeur, c'est une décision qui a sa raison d'être, qui se justifie dans une certaine mesure.
Le constat qui a été fait, il est pertinent. Et je crois que dans la plupart des cas, les fonds de la rétrocession sont mal utilisés. Et moi, je voudrais encourager la province du Katanga à continuer à faire de tels audits, de tels suivis, ce qui permettra à la longue d'améliorer la gouvernance. Mais je mets en garde la province du Katanga contre des décisions de rétention de montants.
Mais professeur, finalement, le problème n'est-il pas au niveau de ce que ces ETD peuvent se dire finalement, bon, n'ayant pas été élu, on n'a peut-être pas toujours tendance à rendre compte à certaines personnes, à ceux qui les ont élus, mais entre-temps, ils sont encore nommés.
Alors là, vous touchez à un problème très capital. Il y a une très grande différence entre les ETD, le mode de gouvernance des ETD, et le mode de gouvernance de province. La province a un gouvernement qui est l'émanation des élections, et elle a aussi un organe délibérant. Alors, au niveau des secteurs de chefferie, il n'y a pas eu élection, donc les autorités locales ont été nommées, et vous savez que quand on est nommé, on n'a pas de compte à rendre à la population, on a plutôt de compte à rendre à l'autorité qui vous a nommé. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de dérapages. L'absence également de l'organe délibérant fait en sorte que, comme on ne sait pas suivre le pouvoir exécutif, comme on ne sait pas le contrôler au jour le jour, eh bien, il s'ensuit des dérapages. Et c'est bien ce qui est arrivé. Et donc, je crois qu'il faut là une solution beaucoup plus globale, qui ne concerne pas seulement la province du Katanga, mais qui concerne toutes les provinces et qui concerne d'abord Kinshasa, qui, à mon avis, devra aller vers une démocratie locale à partir des élections qui seraient organisées au niveau local et qui responsabiliseraient les acteurs élus.
Voilà, ce sera l'objet de notre deuxième partie. On fera le point de la décentralisation. Professeur, Maître Soudi a évoqué le problème d'affichage des projets de développement dans les ETD. Ça ne se fait pas encore.
Bien sûr, j'espère que vous avez déjà été dans les ETD et vous voyez ce que ça représente aujourd'hui. Il faut aller dans nos secteurs, dans nos chefferies. Je vous assure que nous avons hérité d'un État en lambeaux. Un État qui est dans une situation d'érosion et le mode de gouvernance l'est également. Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses à améliorer et je crois que Maître Soudi a bel et bien raison.
Professeur Stéphane Nzita, vous êtes recteur de l'Université chrétienne internationale, également président du Centre africain pour un leadership transformationnel. Comment vous analysez cette décision du gouvernement provincial du Katanga? Vous avez suivi votre confrère, votre collègue, professeur Kabamba et Maître Soudi.
Je pense que j'ai rebondi dans la même direction, mais j'ai deux questions qui me viennent en tête. La première, c'est de savoir si nous comprenons réellement pourquoi nous avons, juste après Sensiti, pensé qu'il fallait que nous puissions partir du centre aux périphéries. Et pour que les gens, nous puissions rapprocher, n'est-ce pas, les gouvernés des gouverneurs. Mais ici, je pense que la décision prise par le gouverneur, par le gouvernement de Katanga, et n'a pas respecté la procédure en vigueur et les processus. La question devient, elle est tellement punitive qu'elle est dangereuse aux gens qui en demandent le minimum. Quand vous voyez nos communautés, je voyais les rapports pour Katanga sur l'éducation à l'école primaire. Je pense que les rapports que nous avons du Katanga en éducation n'est pas flatteur et on demande mais pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces richesses qui sont là. C'est là justement que nous disons nous autres, notre pays, la RDC, ses recherches et ses retrouves. Mais il est confronté par deux problèmes fondamentaux. Et c'est que la justice n'a pas accompagné cette croissance. Et également, les niveaux de vie des gens, c'est-à-dire que les revenus des Congolais moyens n'ont pas non plus accompagné. Alors, maintenant, quand nous avons de l'arbitraire à l'arbitraire, les gens qui dirigent les ETD ne sont peut-être pas les élus du peuple ou bien les choix de ce peuple-là. Alors maintenant on se plaint parce que l'éléphant qui était petit éléphant est parti avec la case. Ce que nous demandons, il est temps que nous puissions respecter nos propres textes. La constitution de la RDC a d'une manière très claire demandé que nous n'ayons pas la rétrocession, mais que nous ayons la retenue à la source. Si seulement si ces gens-là qui seront là sont des gens qui ont été choisis par la population, les gens qui les connaissent. Mais alors maintenant, ces verbes rétrocéder créent problème, pas seulement au Katanga, mais partout. Je pense que nous devons arriver à remettre les choses à l'ordre et comprendre que la constitution de la République n'a pas demandé la rétrocession, mais a insisté sur la retenue à la source, à supposer que ces gens ont été sélectionnés par les gens qui les connaissent.
Et donc, professeur, pour vous, on n'a pas encore, ou du moins la RDC, n'a pas encore compris ce que c'est que la décentralisation.
Je pense que nous avons pensé qu'il y a des gens qui comprennent mieux que les autres, les gens qui sont plus citoyens que les autres. Donc, au lieu d'avoir confiance au peuple de gérer son propre avenir, son propre destin, nous avons préféré créer d'abord un incubateur qui fait que l'argent qui est produit dans nos ETD doit d'abord partir quelque part dans une caisse quelque part et pour être rétrocédé. Le verbe rétrocéder n'était pas utilisé par les législateurs, à juste raison, parce qu'on voulait que nous puissions avoir des hommes et des femmes qui sont élus par le peuple, qui représentent le peuple, qui connaissent là où nous vivons et qui connaissent les besoins dont nous avons. Afficher des listes, c'est une bonne chose, mais vous savez que c'est les gens qui vivent dans ces dans ces communautés qui savent si on a besoin d'un pont quelque part, un centre de santé quelque part, et ainsi de suite. Mais alors que quand on va maintenant commencer à définir leurs besoins pour eux, c'est déjà violer la constitution que nous défendons.
Professeur Stéphane Zita, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Dungu en province orientale.
Jean-Claude, j'appelle à partir de Dungu en province orientale. Je pense que si le gouvernement provincial du Katanga réduit les 40% des rétrocessions, c'est anticonstitutionnel. Parce que c'est la constitution qui avait prévu le pourcentage à rétrocéder aux ETD. Je propose qu'au lieu de réduire, il faut mettre à la tête de ces ETD des hommes capables de concevoir des projets de développement.
Professeur, le problème n'est-il pas au niveau de la formation de ces chefferies et secteurs? Au lieu de les sanctionner directement, n'aurait-il pas fallu les former, par exemple, au préalable?
Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Le problème se pose au niveau où nous avons organisé une désorganisation. La Constitution est tellement claire. Elle a demandé qu'il y ait un rapprochement des gouvernants par leurs gouverneurs, que le peuple choisisse leurs gens. Mais maintenant, nous avons, bien entendu, que je comprends qu'il y a deux situations juridiques ici. Il y a des entités qui ont des personnalités juridiques et ceux qui n'en ont pas. Mais la question ici est simple. Pourquoi nous avons toujours marché contre la Constitution? Et ici, le problème a été manifesté dès le départ. Donc, il y avait, dès le départ, une malformation congénitale qu'on ne pouvait pas s'attendre mieux que ça. Parce que, quand la Constitution est claire en disant que nous voulons que là où les gens produisent de l'argent, qu'ils retiennent à la source 40%. Je parle au niveau national. Maintenant, nous avons trouvé cette formule où ça vient d'abord quelque part et puis nous allons voir ce dont ils ont besoin. C'est justement cette arrogance du centre qui est dangereuse parce qu'on a voulu penser aux périphéries pour que les gens qui vivent dans ces localités, qui connaissent les problèmes, qui connaissent leurs besoins, qui connaissent ce qu'ils ont fait et qui connaissent qui va gérer. Mais maintenant, quand on gère par proxy, on ne peut pas s'attendre mieux que ça. Donc, nous voulons que nous cessions cette démarche d'aller toujours à l'encontre de nos propres lois, de nos propres textes, de notre propre constitution. Il est temps qu'on arrive maintenant, à mon avis, de respecter à la lettre la constitution et de vulgariser ce qu'elle demande.
Maître Soudia, cette réaction qui nous vient de Moba au Katanga pour vous.
Kajaps de Moba au Katanga. Voilà le bien fondé des élections locales. Si les chefs de chefferie et secteurs n'ont pas utilisé à bon escient les fonds leur rétrocédés, c'est parce qu'aucun organe permanent de contrôle n'existe, mais aussi parce que ces entités décentralisées ont trop peu de moyens qui puissent leur permettre de bien fonctionner. Encore, faut-il que les fonds retenus par le gouvernement provincial servent réellement à l'investissement dans les chefferies et secteurs.
Et donc, Maître Soudi, cette question remet à la surface la question, la pertinence même des élections locales.
Réalité. Mais en tant qu'expert, il y a la loi elle-même qui dit dans les dispositions finales qu'en attendant les élections, le pays doit fonctionner. Les structures qui sont là doivent aussi fonctionner conformément à la loi en vigueur. Ceci n'épargne pas ces autorités locales-là à remplir fidèlement le travail qu'attend la population locale. Ceci ne donne pas aussi droit au gouvernement provincial d'évoluer dans l'arbitraire, comme je l'ai dit. Au fait, il y a un problème, j'avais commencé à annoncer. Quand vous voyez nos budgets, les budgets de ces gouvernements provinciaux, on ne consulte pas le peuple. Peu de provinces font des budgets participatifs. C'est-à-dire, les députés provinciaux, nationaux se retrouvent. Moi, dans ma circonscription, j'ai besoin de ça. Ils prévoient une route qui va vers chez ses oncles, ainsi de suite. C'est pas réellement ça les besoins de la population. Maintenant, quand il faut appliquer ces budgets-là, eh bien, on prend un montant forfaitaire, on donne à une entité locale, et l'autorité locale qui vit là-bas, je prends par exemple le cas d'un chef de chefferie. Un chef de chefferie ne sera pas élu.
que vous le vouliez ou pas, lui sera là-bas. Et on va lui désigner les échevins. D'ailleurs, c'est lui-même qui va les désigner pour aller le défendre devant le conseil local. Donc, lui, qu'on ait des élections ou pas, il sera là. Et donc, si on attend les élections, la chefferie ne pourra pas être organisée même après les élections. Moi, je pense qu'il faut un système de fonctionnement. La décentralisation elle-même est là le problème. C'est que nous disons ici au niveau des entités locales. Et si vous voyez, par exemple, le contrôle de complaisance qu'il y a entre, excusez-moi le terme, les deux institutions nationales qui sont censées aller contrôler les provinces, la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances. Ce même problème, on le trouve au niveau des provinces. Les provinces décriaient que le gouvernement central ne rétrocédait pas. Voilà. Mais quand vous allez au fond, le même problème se pose entre les provinces et les entités territoriales décentralisées. Et il n'y a pas de vrai contrôle, par exemple, des assemblées provinciales sur l'utilisation de cet argent-là, que ce soit les rétrocessions, que ce soit les recettes locales ou provinciales. Merci. La Cour des comptes elle-même et l'Inspection générale des finances. Je n'ai jamais entendu des sanctions ici proposées parce que telle ou telle autre province a mal géré les rétrocessions, mais les cas pratiques sont là. Et nous connaissons ce que cet argent fait. Mais ici, nous revenons sur le sujet du jour. Quelle que soit la faute qu'une entité de base peut faire, ce sont des individus qui dirigent. Quels sont les mécanismes que la province a pris pour permettre à ce que le mode de gestion qui a dilapidé les fonds soit amélioré. Moi, je pense qu'il faudra une bonne planification. Et la planification, elle doit être locale, inspirée des besoins de la population au sein de ces entités locales.
Merci, merci maître. Quel bilan dressé à ce jour du processus de décentralisation en RDC? On écoute à ce sujet le gouverneur André Kimbuta, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, faire le point au micro de Donna Madimba.
C'est une disposition constitutionnelle. C'est un vrai problème, cette perception à la source. On devait bien réfléchir là-dessus. Et la vérité est là. Depuis 2007 jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais percé les 40% à la source. Pourtant, nous avons élaboré notre programme d'investir en nous basant sur cette disposition constitutionnelle. Voilà, vous savez que dans un syllogisme, quand les prémices sont fausses, la conclusion elle-même elle est fausse. Donc, on a élaboré notre programme à base de cette disposition, nous avons calculé notre budget à base de cette disposition conditionnelle, mais la réalité, nous ne savons pas la percevoir pour ces deux raisons que je viens d'évoquer, les structures, les engagements pris par le gouvernement de la République, et puis, sans accompagnement d'autres provinces, nous ne saurons pas tenir la tête avec ces 40%. Donc, il fallait bien réfléchir, trouver une formule qui tiendrait compte de tous ces allégats que je viens d'avancer.
Professeur Félicien, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Sendoakipili, Jean-Paul, à Lubumbashi, le gouvernement provincial devrait sanctionner les autorités des entités déconcentrées maintenant suspendre cette rétrocession. Le grand dilemme réside dans l'application de la rétrocession de 40% et tant d'autres dispositions.
Voilà, la retenue des 40% à la source, et le gouverneur André Kimbuta vient d'en parler, cet auditeur également, professeur, de façon générale, à ce niveau, on sait que la décentralisation est un processus. Quel bilan en faites-vous à ce jour?
Ça, c'est une très, très grande question. Parler du bilan de la décentralisation nous plongerait dans des réflexions qui mettront beaucoup de temps. Mais tout de suite, je tiens à vous dire que si vous posez la question de la décentralisation au gouverneur du Katanga, au gouverneur du Bas-Congo, il vous donnera une réponse différente.
Et de Kinshasa aussi.
Voilà, il vous donnera, à mon avis, des réponses différentes par rapport au gouverneur des deux Kasaï, du Maniema, de l'Équateur et de la province orientale. D'ailleurs, l'ancien gouverneur du Bas-Congo distingue ce qu'il appelle les G3 du G8. Les G3, il considère comme étant les provinces les plus nanties et les plus favorisées par le système de décentralisation tel que décrit dans la Constitution, et les G8, qui sont donc des provinces périphériques et donc des provinces partis se contenteront de miettes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la décentralisation, dans sa conception, si elle a été une très bonne chose, si elle a été une solution pour le développement du pays, elle nécessitait une réflexion de fond. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en réalité, le législateur a planifié la réhabilitation de la maison congolaise, alors que on planifie pas la réhabilitation d'une maison de la même manière qu'on planifie la construction d'une nouvelle maison. La RDC est une maison totalement délabrée. Et donc, planifier la décentralisation sans prévoir les mécanismes transitoires, c'est ça ce qui nous a rattrapés.
Et donc, les premiers étaient faussés, comme dit le gouverneur Kimbuta.
Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, appliqué tel que ça se trouve dans la Constitution, trois provinces se tailleraient 80% des 40% de rétrocession et huit autres provinces se tailleraient moins de 20%. Et même si on considère qu'il y a les 10% de la caisse des péréquations, ça ne résoudrait nullement le problème. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez là deux camps. Un camp de trois provinces, le gouverneur André Kimbuta fait partie de trois, et vous avez un autre camp de personnes qui vous tiennent des discours totalement différents.
Et donc, professeur, le problème, il se trouve à quel niveau? Est-ce que la décentralisation telle qu'elle est conçue après le dialogue intercongolais, est-ce qu'elle n'était pas adaptée aux réalités congolaises, où il fallait absolument qu'on fasse quelque chose pour plaire à la communauté internationale sans tenir compte des réalités congolaises?
Non, la question est, à mon avis, plus profonde qu'on la croit. Elle implique à la fois le système fiscal. Le système fiscal tel qu'il est organisé aujourd'hui, par exemple, c'est un système fiscal qui peut donner certains avantages à certaines provinces du fait, tout simplement, par exemple, des avantages géographiques, de la position géographique. Du fait que tu es positionné là où les marchandises entrent, tu captes le fonds et donc tu demandes 40% de rétrocession. Et donc, il y a là tout un problème qui, à mon avis, une série de problèmes qui nécessitent une réflexion de fond sur la décentralisation. Parce qu'ici, la décentralisation, non seulement les gens parlent de fond, mais il y a d'autres questions. Il n'y a pas que la question de la décentralisation financière. Il y a aussi tous les autres aspects. Parce que non seulement il faut transférer ou il faut retenir à la source les fonds, mais il y a également toutes les questions politiques, toutes les questions administratives liées à la décentralisation. À mon avis, je vais vous dire une chose. Au moment où on a adopté la Constitution en 2006, moi je m'attendais, au moment où on nomme le gouvernement, on se disait, qu'est-ce qu'il en sera des ministères ou de portefeuilles dont les compétences ont été attribuées aux provinces? Va-t-on nommer les ministres ou on va les laisser parce que c'est attribué aux provinces? En ce moment-là, il n'existait pas encore de loi qui réglait ces questions-là par les provinces. Et du coup, faute de mesures transitoires, certaines provinces ont voulu qu'on applique tout ce qui était dans la Constitution, hic et nunc. Et ça, je vous assure, ça a été un problème.
Professeur Stéphane Zita, vous disiez tout à l'heure qu'on a organisé la désorganisation et qu'il fallait qu'on respecte nos propres lois. De votre point de vue, quel bilan peut-on dresser à ce jour de la décentralisation en RDC?
Bon, il faut le dire qu'il n'est pas encore là. Et je pense que professeur Kabamba soulève un point intéressant et reconnaître que réellement, quand il y a des décentralisations, il y aura des équilibres au niveau national, parce qu'il y a quand même les choix politiques seront différents du point à un autre, et puis il y a quand même des inégalités. Mais dire que la décentralisation n'est pas la solution, c'est encore plus dangereux, parce que le but de la décentralisation, eh bien, ça va aider d'abord sur la démocratie et le développement à la base. Nous ne pouvons pas, ces pays gigantesques comme le Congo, croire que nous pouvons les gérer du centre. Nous devons rentrer à la périphérie, là où les gens vivent. Il faut que nous remettions aux gens à leur propre destin. Donc aujourd'hui, nous avons échoué dans le domaine de décentralisation parce qu'il y a eu la peur. La peur de quoi? La peur que les gens auraient, ben justement, leur destin entre les propres mains. Et on a peur parce que les contrôles, les partis, il y a beaucoup d'argent ici. Je ne vois pas encore une province.
Professeur, quand vous dites qu'on a peur, vous voulez clairement dire que c'est Kinshasa qui a peur?
Je pense que, écoutez, les pouvoirs ne se donnent pas, hein, vous savez.
Ils s'arrachent.
Donc, ceux qui ont les monopoles, mais là, on gère. Vous savez combien d'argent dont nous parlons ici? Et les Chinois disent dans un proverbe qui dit, là, il y a beaucoup d'argent, on a confiance en personne. Mais maintenant, ici, nous avons beaucoup d'argent, on demande d'avoir confiance en tout le monde. Non. Je pense qu'il est temps que nous puissions commencer par les débits. Reconnaître les difficultés, qu'il y aurait des inégalités, c'est vrai. Reconnaître qu'il y aurait des choix qui seront différents, c'est vrai. Et reconnaître également qu'il y a quand même, dans nos chefferies, les chefs de village, les chefs de groupement ne seront pas quand même élus. Ça, nous savons ça. Mais nous savons que, à partir de là où il y a la structure administrative, où il y a des policiers à la commune, la collectivité locale, le secteur, eh bien, évidemment, il y a des administrations. Ce qui manque ici, nous devons remettre les destins des Congolais aux Congolais. On n'a pas besoin d'un Congolais qui a une capacité supérieure à l'autre, qui va penser pour l'autre. Donc, je pense qu'en ce moment-là, les rapprochements des peuples, des administrés à leurs administrateurs, et encore le but de trouver un développement harmonieux des communautés et de voir les besoins que les gens ont, ils savent eux-mêmes l'exigence. Mais maintenant qu'avec Katanga, qui est un problème intéressant pour moi, et le président de la République avait dit une fois que c'est tolérance zéro. J'ai travaillé pendant longtemps à l'industrie chimique, où vous avez, quand il y a une erreur qui arrive à se trouver quelque part, quand tolérance zéro, il faut tout auditer. Je pense que, puisqu'il y a déjà un défait qu'on a trouvé au Katanga, on a à peine moins de 25 provinces, il y a déjà, là, il y a des dysfonctionnements. Alors, d'abord, dire que le crime est individuel. On ne peut pas avoir des crimes collectifs. Là, c'est violation des droits humains, violation des droits communs congolais. Donc, nous demandons que les Katanga considèrent qu'on ne va pas punir la population innocente, sinistrée, parce qu'il y a eu quelqu'un qu'on a nommé qui a détourné l'argent. Le crime est individuel. Il faut que ces gens-là qui ont pris de l'argent, ils savent à qui ils ont renvoyé durant la rétrocession. Ils doivent les poursuivre en justice. De deux, nous demandons donc que toutes les provinces soient auditées. Pour savoir si ces gens-là qui ont mal utilisé l'argent qui était rétrocédé et ceux qui ont retenu avaient aussi bien géré leur part. Parce que je pense qu'il y a quand même besoin d'audit. Le Congo a deux grands problèmes, je répète, les problèmes de la justice. Nous devons nous battre pour qu'on y trouve. Et les problèmes des revenus, les Congolais n'ont pas de moyens de vivre.
Maître Soudi, professeur Stéphane Zita dit que nous avons échoué. À ce stade, que doit-on faire? Doit-on reprendre le processus? On sait qu'il y a des lois qui ont été votées, il en manque d'autres. Qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment? Je vous demande une réponse brève, il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission.
Contrairement au prof, je dirais que nous n'avons pas échoué, parce que la décentralisation, c'est un processus. Je vais vous dire des choses qui m'engagent comme expert. D'abord, je commence par l'affaire des 40%, c'est de l'utopie constitutionnelle.
C'est-à-dire?
Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, vous avez suivi un intervenant à parler des trois provinces. C'est vrai, parce qu'il y a une étude que nous avons pu mener avec le concours de la Banque mondiale, qui a montré clairement que si on rétrocède les charges, les ressources, et cet argent-là, il n'y a que trois provinces. Encore que ces trois provinces-là, je prends le cas de Kinshasa, là où lorsqu'on a suivi le gouverneur, la direction des grandes entreprises. Toutes les grandes entreprises ne sont pas à Kinshasa, mais les grandes entreprises payent l'impôt à Kinshasa. Et donc, il y a un problème. Lorsqu'on rétrocède, il y a que trois qui vont se retrouver, mais malgré que les trois vont se retrouver avec les 40%, les 40% de l'ensemble des recettes à caractère national ne vont pas, donc le 60 qui reste, ne vont pas permettre à l'État, avec les services qu'il a, de fonctionner parce que le budget est trop petit. Il est minime. Donc, on peut beau crier, monter, descendre. Et moi, d'ailleurs, je pensais à ce qu'on l'on réfléchisse plutôt que de parler de révision constitutionnelle et dans d'autres choses. En matière des cadres juridiques sur la décentralisation, on peut revoir cette disposition. Je prends les bilans. On a parlé du bilan de la décentralisation. Le bilan, il est plus ou moins positif. Pourquoi ? Parce que si nous avions lancé le processus en 2006, aujourd'hui on a les institutions nationales, aujourd'hui plus ou moins on peut évaluer le fonctionnement des provinces, et nous parlons maintenant des élections locales. Malheureusement, on dit qu'il n'y a pas de moyens pour organiser ces élections locales, et c'est ça l'étape la plus importante de la mise en œuvre de la décentralisation, parce que c'est le niveau de contact direct avec la population pour apprécier à quel niveau le développement local est en train d'être réalisé.
Maître Soudi, en guise de conclusion, en un mot, que faut-il pour accélérer ce processus de décentralisation, en un mot?
D'abord, terminer le cycle électoral, organiser les élections locales, mais aussi organiser le cadre juridique sur la décentralisation.
Merci.
Parce que le même problème que nous avons au niveau de province, nous risquons d'avoir au niveau des entités territoriales décentralisées, et ça risque d'être pire pour le fonctionnement de ce processus dans notre pays.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, Maître Soudi pense qu'on a quand même réussi par rapport au processus de décentralisation jusque-là.
Dire qu'on a réussi, je crois qu'il est très très optimiste.
Qu'on a échoué, c'est très pessimiste
c'est
aussi.
C'est également pessimiste. Là-dedans, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il y a des choses qu'on a faites de moitié. On attendait un peu plus. Et quand on voit le nombre d'années qu'on a accumulées, par exemple, sur les 11 lois qui étaient prévues, on en a pris 5. Il y a 6 qui restent. Donc, Maître Soudi vient de parler de parachever le cadre juridique. Donc, il y a une série des lois qu'il faut prendre pour que le processus de décentralisation soit achevé, mais j'insiste aussi sur le fait qu'il faut réformer la fiscalité et l'adapter à la nouvelle architecture nationale. Et donc, la nouvelle architecture institutionnelle, il me semble bien qu'avec avec notre ancienne fiscalité, je ne vois pas comment on peut appliquer une décentralisation avec à la base 40% de rétrocession. Ça sera très compliqué pour les autres provinces qui, à mon avis, seront appelées soit à jouer à la pauvreté, soit à se mettre à genoux devant les autres. Et donc là, c'est à mon avis une réflexion globale qu'il faut entrer.
Et il y a cette question traditionnelle de la volonté politique. Sentez-vous suffisamment de volonté politique pour faire avancer ce processus?
Alors, il y a Kinshasa qui estime qu'on lui demande de retrocéder 40%, mais en même temps, il estime qu'en fait, les provinces ne sont pas à mesure d'assurer le fonctionnement et de prendre en charge ce que Kinshasa prenait en charge par le passé. Et donc, il ne faut pas seulement prendre en charge, donc rétrocéder 40%, en rétrocédant 40%, Kinshasa va se dessaisir de la prise en charge de ce qu'il faisait auparavant. Et donc, du coup, il y a là un véritable problème qui, à mon avis, doit nécessiter une réflexion de fond sur la décentralisation. Il n'est pas bon de jeter la pierre sur Kinshasa, de jeter la pierre sur la province ou, comme le fait la province du Katanga, sur les ETD. À mon avis,
merci.
Il faut une réflexion
plus globale.
Voilà.
Professeur Stéphane Zita, on n'a pas échoué, dit Maître Soudi.
Bon, c'est une fiction de croire qu'il y a d'abord des provinces qui sont tellement pauvres au Congo. Et, ben, si nous raisonnons de la manière de l'économie, de l'exploitation, de prendre les minerais, les vendre, et de bien sûr, mais je ne vois pas une province au Congo qui est plus pauvre que la Suisse. Donc, nous devons être quand même reconnaissants que Dieu a donné beaucoup dans ces pays, et nous sommes maintenant dans l'économie de l'intelligence. Donc, les temps de l'économie d'exportation de nos minerais est presque terminé. Il est temps de penser autrement. Deuxièmement, et il faut quand même savoir que la nouvelle loi OADA détermine qu'est-ce qu'est le siège d'exploitation et le siège administratif. Donc c'est un faux débat de croire que si les impôts des compagnies qui fonctionnent dans une province sont payés à Kinshasa, c'est une faute fiscale. Alors, ce que nous demandons nous autres, c'est que nous appliquons les lois. Les gens qui ont touché l'argent des peuples à Katanga doivent être sanctionnés, pas les innocents, sanctionnés deux fois. Ça sera punir les peuples qui souffrent déjà avec les miettes qu'ils ont réussies. Il y avait combien d'argent après tout, si vous voyez. Donc, nous pensons que les gens qui ont volé de l'argent ou qui détournaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, je ne connais pas combien de jugements, ils doivent être poursuivis eux.
Voilà, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Le dialogue entre Congolais s'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention et merci à Kelly Nkouté, Berry Luchaka, Alain Goy, sous la supervision de Julien Nyamouini, qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. Et moi, c'est Alain Irung Mouchin, je l'ai coordonné, je vous l'ai présenté. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.